Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Comme tous les jours, dès 15h, il se tient prêt à mes côtés et il est particulièrement chaud aujourd'hui avec ce sujet sportif qui s'annonce. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour,
bonjour
Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Vous êtes un peu ironique et sarcastique
non, non,
là,
non,
je
non,
sens.
Non, je vous connais bien, voilà. Allez, dans notre grand dossier du jour, on va s'adresser donc aux sportifs de haut niveau, mais aussi ne fuyez pas aux sportifs du dimanche, comme le docteur Jimmy Mohamed et moi-même, bien sûr. Alors, comment en finir avec les crampes, les blessures, les courbatures, mais sans médicaments? On va vous guider vers les bonnes plantes, les huiles essentielles, bref, les solutions naturelles pour faire du sport et rester en forme, bien sûr, et pour nous éclairer. Sur tout cela, nous recevrons le docteur Françoise Quick-Marinier. Elle est docteure en pharmacie spécialisée dans les huiles essentielles. Ensuite, dans notre séquence, les bobos du quotidien, nous ferons un point sur les boissons énergisantes. Vous avez peut-être un coup de mou en ce moment, et bien, vous verrez que la solution, c'est probablement pas de se tourner vers ce type de produits qui ne sont pas sans risque pour notre santé. Jimmy fera le point. Et enfin, vers 15h50, comme tous les jours, on retrouvera la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle fera un focus sur le vaginisme, ce trouble qui rend quasi impossible toute pénétration. Elle nous expliquera pourquoi.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, nous ouvrons donc ce magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question que nous a laissée Anaëlle. On l'écoute.
Bonjour Jimmy, bonjour Mélanie. Je vous appelle parce que je m'inquiète un peu quand j'ai mes règles. J'ai souvent mal aux genoux et aux jambes. Je me demandais si c'était normal. Qu'est-ce que je dois faire pour atténuer la douleur? Voilà, si vous pouvez me répondre, ce serait super. J'adore votre émission, continuez comme ça. Merci beaucoup.
Et merci à vous Anaëlle. Alors pour vous répondre avec précision, nous avons interrogé pour vous le docteur Isabelle Héron. Elle est gynécologue à Rouen. On l'écoute.
Habituellement, les douleurs de règles, elles sont localisées au niveau du ventre, mais parfois elles peuvent irradier dans le dos et parfois jusque dans les cuisses. Dans les genoux, j'ai pas retrouvé cette notion-là. Par contre, il y a certaines jeunes femmes qui décrivent pendant les règles et avant les règles des sensations de douleur dans les jambes avec une sensation d'inconfort qui peuvent être liées à ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel. Ce que je conseillerais à votre auditrice, c'est d'aller consulter son médecin traitant pendant les symptômes et pendant qu'elle a ses douleurs, pouvoir examiner les genoux pour savoir si éventuellement il y a des signes cliniques évocateurs. Et puis si son médecin généraliste pense que c'est vraiment lié au cycle, que c'est un rapport avec les cycles adressés à un gynécologue, et pourquoi pas lui proposer une contraception pour bloquer les règles et voir si la symptomatologie en fait s'améliore en bloquant les règles.
Voilà, c'était les conseils du docteur Héron au micro de Valentin Piovesan. Jimmy, à présent, on va prendre une seconde question. Elle est pour vous, c'est celle de Thomas qui vit près de Dijon. Écoutons-le.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy, j'ai une petite question pour vous. Mon père a consulté l'ophtalmo, il a diagnostiqué une dégénérescence maculaire. Il lui a expliqué que c'était en raison de son âge, mais tout de même, je suis assez inquiet, et mon père aussi pour le coup. Est-ce qu'il existe un moyen de réduire cette dégénérescence, avec peut-être des exercices visuels ou d'autres choses? Merci pour votre réponse.
Alors Jimmy, on va tout reprendre dès le début. D'abord, c'est quoi la dégénérescence? Donc c'est la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. De quoi parle-t-on?
Eh bien c'est la dégradation de la macula. La macula, c'est la partie centrale de la rétine, là où vont converger les rayons lumineux. Et donc, comme la partie centrale de la rétine va être abîmée, eh bien, la vision centrale va être atteinte, alors que votre vision périphérique va être conservée. C'est la première cause de handicap visuel en France, même si, encore une fois, on ne finit pas totalement aveugle lorsqu'on a cette maladie.
Alors, quelles sont les causes? Parce que là, donc, pour le cas du papa de Thomas, le médecin lui a parlé de l'âge, et c'est le nom même de la maladie. Donc, est-ce que c'est bien l'âge le principal facteur de risque, on va
c'est
dire
le principal facteur de risque après 50 ans, et sa fréquence augmente donc avec l'âge. À 50 ans, vous avez 1% de risque d'avoir une DMLA, et puis on passe à 30% après 75 ans. Mais il y a d'autres facteurs, comme un terrain génétique, mais aussi l'obésité. On sait que si vous êtes en surpoids, vous êtes plus à risque d'avoir une DMLA, et puis aussi le tabac, ça paraît tout bête, mais vous augmentez d'un facteur 3.
Encore une bonne raison de ne pas fumer.
Hein. Exactement. Et puis à l'inverse, on a certains facteurs protecteurs. On s'est rendu compte que les aliments riches en oméga 3 permettaient justement de limiter cette DMLA.
Alors c'est quoi les symptômes? Parce que vous avez un petit peu décrit, vous avez dit donc que c'était un problème de vision centrale et pas périphérique. Comment on peut savoir soi-même, avant d'avoir vu un ophtalmo, bien sûr il faudra le faire, mais qu'on a peut-être ce problème-là?
Dans un premier temps, elle peut être asymptomatique puisqu'il y a plusieurs formes de DMLA. Il y a une forme sèche où vous allez simplement avoir des petits dépôts qui vont se former sur la rétine. rétine. Et puis, il y a une forme humide avec la production de vaisseaux qui vont venir soulever la rétine et atteindre justement la vision centrale. Il y a un test tout simple que vous pouvez faire. Vous téléchargez une grille qui s'appelle la grille d'Amsler.
Vous l'avez prise à la main. Je ne sais pas, pour ceux qui ont la vidéo, la verront. Oui.
Alors, c'est une grille quadrillée. Au point, au milieu, vous avez un petit point. Si jamais vous voyez ce point, tout va bien. Si vous voyez pas la feuille, il faut vite consulter. Mais si vous commencez à avoir des lignes déformées, c'est souvent des premiers symptômes de DMLA, eh bien, il faut consulter parce que vous n'allez pas
droite,
tout de suite.
Hein, donc c'est
voilà,
bon.
Exactement. Okay. Et donc, on va être gêné lors de la lecture. On va avoir besoin de plus en plus de lumière. Et puis, dans un second temps, les objets vont être un peu déformés. Donc, évidemment, il faut aller voir l'ophtalmo.
C'est des grilles qui se téléchargent facilement sur Internet. Nous, on l'a téléchargé sur le site de l'INSERM, précisément. Jimmy, comme le suggère Thomas, est-ce qu'il y a des exercices éventuellement visuels qui permettent de limiter ça? Ça me paraît peu probable. Mais...
Alors, ce qu'on peut proposer, je vous ai dit que la vision centrale allait être atteinte, mais que votre vision périphérique va être conservée. C'est de proposer avec l'orthoptiste des exercices de rééducation pour permettre de compenser justement et de vous aider de la vision périphérique pour essayer de compenser ce manque que vous avez lié à la vision centrale. Évidemment que ça ne fait pas partie du traitement à part entière, mais c'est une aide supplémentaire pour accompagner le patient.
Et rapidement, le traitement, s'il y en a un, c'est quoi aujourd'hui ?
C'est des injections pour bloquer la formation des vaisseaux sanguins. La thérapie génique est aussi un truc qu'on espère plus tard, c'est de créer justement des facteurs par la rétine pour éviter la propagation de ces vaisseaux ou parfois même d'autres thérapies cellulaires pour que justement on évite d'avoir à faire ces injections d'antifacteurs de coagulation.
Allez, on va y arriver, c'est pas la vision le problème. Allez, on
c'est l'élocution.
Merci Jimmy, si vous aussi vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Françoise Couic-Marinier. Bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous et à toutes.
Vous êtes docteur en pharmacie, spécialisée dans les huiles essentielles. Vous étiez venu il y a quelques mois nous parler de l'aromathérapie. Et là, vous publiez maintenant ce guide complet du soin en naturel pour les sportifs aux éditions Terre Vivante. Pourquoi il y a cet engouement justement des sportifs, notamment de haut niveau hein, en plus. D'ailleurs, il y a une préface de Tony Estanguet dans votre bouquin pour justement cette médecine douce, naturelle. Qu'est-ce qui leur a fait finalement en arriver là?
Ben, on parle souvent de dopage, de scandale par rapport à ça. Enfin, on a eu des très grands champions. Si on cite le Tour de France, par exemple, ça fait aussi très peur. Cet engouement aussi, c'est parce qu'on s'aperçoit, par exemple, qu'on cite dans le livre, moi j'avais une gymnaste comme patiente 10 ans et elle était déjà sous médicaments. D'ailleurs, c'est autorisé, hein, des bêta-bloquants, pour justement limiter son stress. Sauf qu'elle faisait des malaises en classe, puisque c'est censé être des antihypertenseurs. Du propranolol en l'occurrence. Donc tout ça est connu et puis il y a un engouement parce qu'on sait que ça marche, parce que lorsqu'un fait, et ne le dit pas forcément, les autres ont forcément aussi envie de le faire et ça marche très très bien. Par contre, c'est assez drôle parce que lorsque un va faire, il ne veut pas forcément que les autres le sachent. Donc, j'ai par
et parce qu'il va être meilleur si ça marche et que ça marche sans médicaments.
Donc il faut trouver où les autres ne sentent pas, parce que c'est le problème par exemple des huiles essentielles où là ça sent lorsqu'on en met.
Alors on va le voir, il y a différentes façons naturelles pour accompagner les sportifs. D'abord les plantes, la phytothérapie, on peut l'utiliser sous quelle forme d'abord ?
Alors la phytothérapie comprend de très nombreuses cases. On peut utiliser des gélules, des ampoules, des tisanes. Alors c'est pas forcément le plus
phytothérapie,
pratique.
Phytothérapie, ça veut dire médecine par les plantes.
Se soigner
c'est ça,
par les plantes. Voilà, après ça peut être des formes particulières comme la gémothérapie ou encore l'aromathérapie qui fait partie. Donc les huiles essentielles font partie de la phyto.
Et puis il y a les plantes fraîches, tout ça c'est de la phytothérapie.
Exactement.
On met tout ça dans la. C'est un gros.
C'est les plantes et on voit après ce qu'on en fait.
D'accord. Est-ce qu'il existe des plantes qui agissent justement, on parlait tout à l'heure de dopage, mais comme dopant pour améliorer véritablement les performances ou pas? Là, elle va nous donner un petit secret, Jimmy. Écoutez bien, vous allez être le roi du footing.
Alors dopant, on va éviter, on va dire pour booster, parce
oui,
qu'effectivement, on n'a pas qui sont inscrites, à part la poudre de feuilles de géranium, qui est utilisée par les bodybuilders. Donc ça fait partie de la liste des produits dopants. Et on en a quelques-uns d'autres.
Mais celui-là, ne notez pas, Jimmy, ça ne sert à rien. C'est un dopant.
Mais on en a. Alors, vous parlerez plus tard des boissons énergisantes. Moi, je ne suis pas très fan des plantes à caféine, parce que finalement, ça booste un petit peu artificiellement. Mais on en a. On va avoir l'épinette noire en huile essentielle et différentes choses. Donc,
épinette noire, Jimmy, épinette noire pour courir. C'est bon.
Je vous dirai comment la prendre.
Dites-nous alors, parce qu'on y est. Alors.
Bah, j'attends, mais moi, je veux des réponses. Vous dites ce qu'il ne faut pas prendre, mais dites-moi ce qu'il faut prendre. Donc, enfin, je puisse courir au moins après mes enfants, c'est
voilà.
Un minimum.
Oui, un minimum. Alors bah, là, ça va être sûr. On va utiliser des conifères. Donc l'épinette noire, c'est un sapin du Canada. Et on va masser, ça a un effet de stimulation des surrénales. Donc on va justement fabriquer nos corticaux sur nos hormones corticosurrénaliennes, donc ça va nous donner un boost quoi, et plutôt le matin.
Bon, on va le masser sur les surrénales, mais ça sera déjà un peu
bon
mieux.
Début. C'est un bon début. Alors on sait qu'un sportif qui est efficace, c'est un sportif qui dort bien. Mm. Est-ce qu'on a des plantes qui peuvent favoriser l'endormissement? Et c'est peut-être valable d'ailleurs pour tout le monde.
Ouais, c'est vrai, pas que pour les sportifs.
Tout à fait. Alors on en a qui sont dites adaptogènes, donc qui vont aider non seulement à l'endormissement, mais aussi à la performance, comme le ginseng, qui va permettre de bien dormir et qui a un léger effet anabolisant protéique, donc lorsqu'on veut prendre un peu de masse musculaire. Et puis les classiques, la rhodiole qui est un adaptogène aussi, qu'on reverra. Mais on a aussi la passiflore, la valériane.
Tout ça, c'est prouvé scientifiquement, en plus, pour le coup. Hein, dans le sommeil, il y a pas mal d'études scientifiques.
Tout à fait, beaucoup, beaucoup d'études. Et effectivement, un effet très important parce que c'est très souvent les troubles du sommeil, la veille d'une compétition, que l'on soit amateur ou de haut niveau.
Moi, je fais une course par an et je tiens à la gagner. Quoi.
Exactement. Donc, c'est ça. Je suis toujours dans les derniers.
Mais vous avez parlé du ginseng, justement, pour mieux dormir. Mais du coup, pour moi, le ginseng, c'est un truc qui était un peu éveillant. Donc,
Non, c'est ça. C'est adaptogène. Donc, le matin, ça va nous booster.
Et
mais
le soir,
par contre,
on va bien
le
dormir.
Soir, voilà.
C'est ça, adaptogène, c'est ces plantes qui ont presque double fonction, qui s'adaptent
exactement
à la situation. En
et
fait,
qui s'adaptent à la situation dont on a besoin.
D'accord. Et vous l'aviez un peu amorcé tout à l'heure, vous avez parlé de la gémothérapie. Alors ça, pour le coup, moi, j'en avais jamais entendu parler. Expliquez-nous ce que c'est. C'est de la phyto, mais ça prend pas exactement le même morceau de plante, quoi, on va dire. C'est quoi
c'est
exactement?
C'est ça. Alors ça vient de Gemma. Alors je vais regarder Jimmy. Ça pourrait être la culture des prières précieuses.
Oui, j'ai pensé Pierre. J'ai eu un peu peur, mais non.
Ça,
c'est
très bon chez la femme. Un truc tordu avec des rubis qu'il faut frotter sur le visage.
Il était prêt à dévaliser le bijoutier. Là.
Pas du tout. Là, c'est la thérapeutique par les bourgeons frais ou des substances en voie de croissance, comme des radicelles ou autres. Et là, on a des substances très, très intéressantes qui vont booster un petit peu comme on le fait avec nos plantes aussi. Hein, on va mettre des substances de croissance, mais là, c'est le cas aussi.
C'est quoi l'avantage, on va dire, enfin, la différence en tout cas avec les plantes classiques dont on a un petit peu parlé juste avant? Là, les bourgeons, ils vont agir différemment sur l'organisme. Pourquoi cet intérêt pour le bourgeon?
Parce qu'ils sont plus concentrés. Donc, ils vont être 10 à 20 fois plus concentrés que les formes développées, comme une feuille entière d'une tisane, par exemple. Donc forcément, c'est une forme plus concentrée dans la phytothérapie. On se rapproche de l'allopathie, c'est très efficace. Et on a quand même quelques études maintenant sur cette forme-là. En plus, c'est très facile à prendre parce que c'est une dizaine de gouttes. Donc c'est facile à emmener.
Ah, c'est des gouttes, parce que je vais dire, je ne vais pas cueillir les bourgeons sur les arbres. Hein. Moi, j'étais prête à aller sortir mon panier et partir dans
c'est
la nature.
Et à manger un truc pas comestible.
Mais en plus,
comestible.
Là, ça y est, c'est plus que bourgeonner là maintenant.
Ah, ouais, c'est ça. Comme les baies de muguet qui sont toxiques, non.
Donc c'est des choses que vous broyez, qui sont des préparations et
voilà.
En gouttes après. Hein,
donc
c'est
on
ça.
Va prendre le bourgeon frais qu'on fait macérer 3 semaines dans un mélange glycérine-alcool. Donc là aussi, on extrait autre chose que dans de l'eau. Et ensuite, on va récupérer ça. Et comme c'est très concentré, 10 à 15 gouttes par prise suffisent. Donc c'est petit, c'est facile à emmener. Oui. Aussi.
Ouais, j'aurais failli mettre ça dans la chorba ce soir, donc heureusement vous m'avez dit que c'était des gouttes, donc je ne ferai pas de bêtises. Alors, vous avez parlé aussi des huiles essentielles. Pourquoi est-ce que c'est important pour les sportifs? Est-ce qu'il faut se masser avec? Quelles vertus on peut avoir en se massant avec?
Alors, c'est très efficace. Effectivement, on peut se masser, c'est très connu. Les kinésithérapeutes, le kinésithérapeute qui a coécrit le livre, Jérôme Grest, les utilise. Il est d'ailleurs diplômé. On va rubéfier la peau, c'est-à-dire qu'on va la chauffer, on va préparer, on va améliorer la microcirculation, par exemple, pour avant l'effort. Puis on va relaxer après l'effort. On peut aussi mettre du froid, donc justement pour apaiser les échauffements musculaires ou autres. Donc oui, après on peut diffuser aussi. Ça c'est de la préparation plus mentale. On va préparer. On a une odeur de victoire, une odeur de.
Ouh là, c'est quoi l'odeur de la victoire? Donnez-nous là, vite, vite.
Par exemple, c'est assez rigolo pour des skieurs de l'équipe de France. C'est souvent la menthe poivrée, alors qu'ils sont dans le froid. Ils se frottent avec du froid, ils respirent du froid.
Ah ouais, incroyable.
Et effectivement, c'est leur odeur de victoire.
Ah, moi, c'est le kebab, l'odeur de victoire. Je sens un kebab, mais là, je
sais pas si ça existe en
milieu. Je fais 3 tours de piste là en moins d'une minute.
Donc, la menthe poivrée pour la victoire. On le retient, celui-là. Docteur Quick Marinier, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez évidemment les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invitée, elle est toujours en studio avec nous. C'est vous, docteur Françoise Cook-Marinier. Vous êtes docteur en pharmacie spécialisée dans les huiles essentielles et donc vous êtes l'auteur, le co-auteur du livre Sportif, le guide complet des soins naturels aux éditions Terre Vivante. Alors docteur Cook-Marinier, un autre soin naturel, ce sont les massages. On adore tout ça. Donc là, c'est génial. Moi, la partie massage, je suis ravie. Le massage, sert à quoi précisément chez un sportif, en dehors du côté très agréable évidemment du truc hein.
Alors ce n'est pas toujours agréable un massage de sportif.
Oui, mais parce que je ne suis pas assez sportif, c'est pour ça.
Alors il faut en profiter, c'est vrai que ça fait toujours rêver, surtout avec des huiles essentielles. Donc ça permet d'augmenter le débit sanguin au niveau des zones qui sont massées. Donc on a un effet d'abord loco-régional, puis général. Donc cette augmentation sanguine va permettre de détendre, de relâcher au niveau musculaire, de détoxifier aussi lorsqu'on a accumulé certaines toxines en courant, comme Jimmy. Et puis on va cicatriser.
Elle
aussi.
Le glisse comme ça, sans mine de rien.
C'est gratuit.
Parce qu'elle y croit en plus, hein, que vous êtes un sportif.
Mais d'ailleurs, moi, je me fais masser avant le footing. Je ne fais pas le footing après, mais je me fais masser. Est-ce que c'est un intérêt
Bien
de
sûr.
Commencer justement par ça?
Bien sûr, alors on va là aussi augmenter, surtout quand il fait froid. Donc on va, grâce à certaines huiles essentielles qui vont chauffer la peau, on va augmenter la température, on va préparer le muscle à l'effort. Et puis quand on est dans des températures à peu près normales, ça va permettre d'avoir une oxygénation optimale, donc éviter de fermenter et de faire ce qu'on appelle l'acide lactique, même si c'est pas...
C'est quoi l'acide lactique déjà?
Alors c'est ce qui va donner les courbatures.
C'est des toxines en fait, hein, c'est ça?
C'est ça, parce qu'on utilise mal l'oxygène, parce qu'on n'en a plus. Donc on va fermenter au lieu d'être en aérobie, ça dit comme ça. Hein, et donc on va avoir une efficacité optimale pour courir, pour mobiliser
donc les grands
muscles.
Sportifs se font même masser avant. Moi je savais qu'on les massait après, mais et le après du coup il sert à quoi? Là pour le coup c'est détoxifier, j'imagine, et pas que ça. Détendre.
Exactement, on va détendre, on va relaxer, on va refroidir aussi, hein, parce que c'est
y a une inflammation. On chauffe avant, souvent. On refroidit après.
Voilà. Ou alors on fait des alternances.
D'accord.
Alors justement, Mélanie, elle pense que le massage, ça va être des câlins qu'on va faire sur la jambe.
Pour essayer de soulager. C'est tout ce que je connais. Hein.
Non, mais c'est des massages un peu plus, on va dire, toniques. Hein. Il y a par exemple le pétrissage. On n'est pas dans le Top Chef.
Non, mais à la boulangerie.
Mais si.
On voit un peu l'idée du pétrissage. À quoi ça sert et
C'est
ça
exactement comme pétrir une pâte. Hein. Donc, alors ça, c'est pas du tout.
Ça fait mal. Ouais,
ah, oui, ça fait mal. Donc, comme son nom l'indique, on va justement, on va prendre le muscle, on va le lâcher, le rattraper comme ça, soit longitudinalement, donc de haut en bas. Soit transversalement, donc ils font en général les deux, ça permet de relancer la vascularisation profonde du muscle. Donc c'est très important, mais c'est pas du
ça, ça doit être douloureux pour être efficace. Alors d'accord, vous avez l'air de l'avoir testé vous, hein, parce que vous m'aviez confié tout à l'heure que vous étiez quand même sportive aussi, à une époque très sportive même, ceinture noire de karaté, je tiens à le préciser. Oups. On se tient à carreau, Jimmy, aujourd'hui.
Ouais, alors, je ne bouge pas.
Un massage parfait, et lui aussi, je sais pas, il est peut-être pas très agréable, mais pour les sportifs, c'est le palpé roulé. Là, on va agir plutôt sur la graisse, c'est ça?
Oui, et puis sur la cellulite, ça c'est pour nous les femmes, parce que la cellulite,
c'est quand même
pas
assez
les mêmes
féminin,
adipocytes, en tout cas la même forme. Donc ça permet de casser les cellules graisseuses, donc c'est important. On fait un drainage, c'est très efficace. Puis après, on peut faire aussi, grâce à des huiles essentielles contenant du menthol, de la cryolipolyse. Donc ça, on va drainer et on va évacuer là encore ces toxines. C'est le plus efficace.
Mais qui peut pratiquer ces massages? Est-ce qu'on peut le faire tout seul? On a besoin d'un professionnel? On voit souvent les images avec les footballeurs massés par des kinés. Mmh. Est-ce qu'on a besoin forcément de passer par quelqu'un?
Alors ça dépend ce qu'on veut faire.
Et du budget peut-être. Hein.
Oui, aussi du budget. Donc les messages, tout ce qui est massage de récupération, je conseille quand même une tierce personne, donc un kinésithérapeute, masseur kinésithérapeute.
Le jour où vous serez vraiment champion de haut niveau, de toute façon on vous le mettra à disposition, je pense.
J'espère une équipe, j'espère un staff pour moi-même.
C'est ça. Voilà, après justement pour la préparation ou des massages doux, on appelle ça le massage plus californien. On peut le faire soi-même, on peut avoir des automassages. Parfois, on a des roll-on avec des grosses billes. Lorsqu'il faut se masser le dos, par exemple, on se fait un début de lumbago ou autre. Là, on va pouvoir y aller. Par contre, sur les massages profonds avec notre pétrissage du pain de tout à l'heure, là, il faut prendre un professionnel parce qu'on peut faire du mal aussi.
Bien sûr. On voit souvent les grands sportifs, après un match ou un gros effort, une grosse compétition, récupérer avec des bains très froids ou des bains très chauds. C'est quoi l'effet sur le corps et les bienfaits éventuels de ces techniques-là?
Alors, c'est très important. Mais là, justement, on va avoir un souci pour les Jeux Olympiques puisqu'ils attendent des Jeux Olympiques très chauds, à 40 degrés à Tokyo.
Je confie, je ne sais pas si j'avais le droit, mais que vous allez y aller aux Jeux Olympiques. Hein, vous accompagnez plusieurs sportifs cette année.
Voilà. Des équipes, notamment des triathloniens, des marathoniens, comment vont-ils faire pour se refroidir? Donc il y avait une piscine de glace de prévu, sauf que là je pense qu'on va acheter des poubelles dans lesquelles on va mettre des glaçons et on va leur faire une alternance puisque ça permet de baisser la température du corps après l'effort. Donc on va diminuer la dépense de calories pour une homéostasie, c'est-à-dire rester justement pas trop chaud, hein, sinon ils vont faire de la fièvre. Donc cette alternance de chaud-froid, on va faire des chocs thermiques et on va avoir une augmentation encore une fois du débit sanguin.
Ça, donc, c'est bon, là on parle des sportifs de haut niveau, mais moi ça. Par exemple qui fais un peu de sport de temps en temps, dis-moi, mais c'est monsieur et madame tout le monde parce que moi j'en fais fait pas beaucoup, ok, Jimmy,
fait
merci.
Du jardinage,
voilà. Mais est-ce que ça peut être utile pour monsieur, madame, tout le monde qui fait
bien
du
sûr.
Sport? Je veux dire, ça va apporter quel bénéfice à...
Au contraire, un sportif de haut niveau qui, lui, a l'habitude, il a peut-être moins besoin, sauf dans les compétitions, en plus il va avoir du stress, des contractures, mais on va oxygéner les tissus. Hein. En général, c'est plutôt le sportif du dimanche ou de petit niveau, comme dirait Boris Cyrulnik, qui va avoir besoin de ça, parce que c'est lui qui va avoir des courbatures.
Et plutôt chaud, plutôt froid, alors, pour le petit
alors,
niveau?
Alors, les deux, on alterne. Hein, on va améliorer la récupération et la cicatrisation du muscle, justement, si on n'a pas fait de sport depuis longtemps. On va alterner.
D'abord le froid ou d'abord le chaud? Est-ce qu'il y a un ordre?
Alors, plutôt le froid, d'abord, et ensuite le chaud, et encore le froid.
D'accord. On a toutes les astuces, là.
On a plus qu'à faire du sport. Moi, je ne vais pas aller aux Jeux Olympiques, mais j'espère aller au hammam quand ça va réouvrir. Est-ce que, justement, ça peut nous aider? On fait ça combien de temps? Est-ce qu'à la maison, on peut aussi se faire un petit hammam?
Pourquoi pas?
Pourquoi, oui.
Dans une douche, par exemple, et puis on chauffe si on a une cabine, enfin si c'est bien fermé. Pas plus de 15 minutes, par contre, ça c'est important. Et puis ça peut être intéressant d'avoir une bassine, où je citais une poubelle parce que c'est grand, mais d'eau glacée et un bain à 39 degrés. Donc on alterne 39, eau glacée, etc.
Wow, on sait même se faire un hammam à la maison grâce à vous. Alors,
voilà.
C'est assez proche, il y a aussi la cryothérapie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le principe et les bénéfices éventuels pour les sportifs?
Alors il y a deux types de cryothérapie. Il y a la cryothérapie où on est dans des caissons, mais la tête n'est pas au froid. Et puis là, on va parler de la cryothérapie corps entier, parce que c'est assez différent. Donc ça va permettre une meilleure récupération, car le froid sec qui est plus intense. Donc on va agir sur les zones traumatisées et fatiguées, hein, qui sont plus sensibles au froid, et on va augmenter la sécrétion d'hormones, par exemple. Et forcément, le corps va mieux cicatriser et on va développer les facultés.
Il n'y a pas de risque éventuel pour les organes à l'intérieur? Parce que là, on imagine que ça agit sur les muscles, mais les autres?
Oui, alors bah déjà, on rentre avec des gants, des bonnets et justement, on est des chaussettes très chaudes parce que les extrémités, il faut faire attention. Si on est sportif de haut niveau, on reste un peu plus longtemps parce que c'est à moins 110 hein, quand même. Hein, donc, on y reste 2 minutes, 2 minutes 30 et puis on a un passage à moins 60. Et puis, il faut faire attention, c'est contre-indiqué chez les cardiaques comme les alternances de bain chaud et de bain froid, hein, puisque... avoir des palpitations.
En même temps, on va pas tous se lancer dans la cryothérapie comme ça, tous les 4 matins. Donc, en tout cas, merci pour ces infos. Docteur Quick-Marigny, on va continuer cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous. Elle nous accompagne cet après-midi. C'est vous, docteur Françoise Quick-Marigny. Je rappelle que vous êtes docteur en pharmacie spécialisée notamment dans les huiles essentielles. Alors, on va voir dans cette dernière partie comment traiter les petits tracas physiques et psychologiques qui peuvent gâcher la vie des sportifs comme Jimmy. Certains, comme certains tracas, notamment les ampoules. Hein, je parle de ça parce qu'il s'en plaint souvent. Hein, Jimmy, vos nouvelles baskets, à chaque fois que vous recommencez le jogging,
vous,
c'est le
problème. Vous, c'est les verrues et moi, voilà. C'est les ampoules. C'est chacun ça. Son problème.
Ça peut quand même devenir un handicap, les ampoules. Le réflexe, selon vous, c'est d'appliquer de l'huile de lavande. C'est ça, sur les ampoules?
De l'huile essentielle de lavande qui va cicatriser.
Non, c'est cicatriser ou prévenir, je ne sais pas.
Alors, c'est plutôt pour cicatriser.
D'accord.
Enfin, ça ne fera jamais de mal en prévention, mais ça cicatrise très, très bien la peau et on peut le mettre, juste le déposer sur l'ampoule sans la percer.
Ça peut servir quand on a des nouvelles chaussures aussi, ça. C'est pas que pour les sportifs,
exactement,
d'ailleurs.
Ouais.
C'est
exactement.
Utile aussi pour ça.
Mais pas que pour les ampoules. On a aussi, avec ces nouveaux vêtements qui respirent et qui sont synthétiques, notamment chez les hommes, parce que nous, on a des soutiens-gorge, mais ça irrite notamment les bouts de seins.
Mais oui, on a parfois qui saignent, bien sûr.
Voilà.
Bien sûr.
Donc ça va très, très bien cicatriser.
Ah oui, parce que c'est vrai, des fois, les fois où j'ai couru...
Oui, vous avez saigné des tétons,
mais
bien
oui,
sûr.
J'ai eu une mamelonite, j'ai eu le téton tout rouge,
sérieux,
et ça faisait grave mal. Et ma femme me dit que je suis un lâche, parce que j'ai couru une fois et que j'ai commencé à faire ça. Mais est-ce qu'on peut appliquer des choses, justement, pour éviter les frottements? Est-ce qu'il y a des petites crèmes qu'on pourrait mettre?
Je ne sais pas s'il est sérieux.
Exactement.
Ah, franchement, j'ai honte, mais je suis premier degré.
Ah,
oui, j'ai eu mal au téton.
D'accord.
Mais vous voyez, oui, non, c'est très courant. Donc là, on utilise des crèmes, notamment à base de karité, de beurre de karité. Donc c'est naturel. On peut l'enrichir avec cette lavande, justement, ou pas. Et ça va éviter les frottements alors dans les chaussures, mais aussi sur les vêtements.
Bon, sinon, un bout de scotch, hein, Jimmy. Alors, vous donnez aussi, docteur Quick-Marigny, des conseils en cas de choc émotionnel pour les sportifs. Ça peut être quoi comme choc? Alors là, je pense surtout aux sportifs de haut niveau, quand même, parce que c'est quoi? C'est le stress de la compétition, ou le fait d'avoir perdu? Ça, c'est les chocs émotionnels dont on parle?
En fait, je me demande si les chocs émotionnels ne sont pas encore plus importants chez ces sportifs de tous les jours qui ont prévu une course dans l'année et qui ne peuvent pas parce qu'ils se sont fait une entorse ou autre. Alors, il y a évidemment les troubles actuels avec le report des Jeux Olympiques, les compétitions qui ne comptent pas, ne pas pouvoir se déplacer. Enfin, c'est assez terrible.
Qu'est-ce qu'on conseille alors du côté de la médecine naturelle, on va dire?
Alors, souvent, ça provoque aussi des crises d'angoisse. Donc, l'huile essentielle de camomille romaine est très efficace. On va les apaiser, les calmer. Elle est d'ailleurs utilisée à l'hôpital en pré-anesthésie. Donc forcément, c'est une très grande relaxance et on va éviter de ruminer comme ça tout le temps.
On la met dans l'atmosphère, en fait, comment ça se diffuse, enfin, comment
alors,
ça s'utilise?
Soit dans un stick inhaler, soit sur un mouchoir à respirer. Hein, et on se pose et on respire. Et là, on a un apaisement très important.
Alors la semaine dernière, j'ai couru après le bus et j'ai eu des courbatures ensuite. Est-ce qu'on peut essayer des petites choses justement pour lutter contre ça?
Alors déjà, il faut des massages. On va faire un massage drainant, ce qu'on peut appeler un massage lymphatique. Hein, et ces courbatures, alors la première chose, eh bien, il va falloir recourir après le bus, mais plus doucement, parce que l'acide lactique s'élimine par la respiration. Donc il ne faut pas rester allongé dans son lit, mais plutôt réactiver justement la circulation.
Et on va c'est pour ça que les footballeurs, après un match de foot, ils font le petit décrassage et ils vont continuer de marcher.
Exactement ça.
Même quand ils ont perdu, ils continuent de courir.
Ça, voilà, on se dit, il faut que tu te relèves et que tu ailles courir. Effectivement, en 5 minutes, ça part, puisqu'on a éliminé les toxines en drainant. Donc on va drainer au niveau musculaire et puis on va utiliser notamment en direction du cœur, hein, toujours. On va utiliser des huiles essentielles qui contiennent du camphre. Donc le camphre, ça donne du chaud puis du froid. Donc cette alternance-là
va calmer. Donc on masse les jambes de bas en haut, c'est ça, avec du camphre.
La racine des membres, donc du bas des jambes jusqu'en haut, des mains jusqu'au cœur, etc.
Et on aura moins de courbatures, a priori, en utilisant cette technique-là. Pour les crampes, vous expliquez pourquoi les nageurs ont plus de crampes que les autres. Pourquoi?
Alors, lorsqu'on fait du sport à une certaine température, en tout cas lorsqu'on active justement la température du corps, on va transpirer. Donc, la vapeur d'eau s'en va, donc il faut boire. Et par contre, une partie des minéraux qui sont dans la sueur sont réabsorbés par la peau. Sauf quand je nage dans une eau assez chaude, eh bien, les minéraux se diluent dans l'eau parce que je transpire.
Donc, ils sont désavantagés par rapport aux autres sportifs.
Donc, ils sont plus sujets aux crampes puisque c'est un manque de minéraux. On parle du magnésium, mais pas que.
D'accord, très intéressant.
Et justement, pour ça, vous conseillez une huile que je ne connais pas, l'huile essentielle de Gaultéry. Je ne sais même pas si ça se dit comme ça.
Il le dit bien, ça va?
Oui,
c'est
Gaultéry.
Ça.
Et du coup, on peut lutter contre les crampes grâce à ça?
Oui, alors l'huile essentielle de Gaultéry, en gros, un flacon de Gaultéry de 10 ml égale 14 g d'aspirine. Donc, on va avoir un effet très fluidifiant. Donc, il y a une grosse contre-indication, on s'en doute. Les hémophiles, les gens qui sont sous anticoagulants. Par contre, elle est antalgique, donc elle calme la douleur, elle est anti-inflammatoire. C'est très efficace.
D'accord. En cas d'entorse de la cheville ou du genou, c'est un bobo fréquent du sportif, une consultation médicale, vous dites, est quoi qu'il arrive, bien sûr, nécessaire. Mais est-ce qu'on peut soulager ce type de douleur avec des plantes d'une manière ou d'une autre?
L'entorse, c'est le premier traumatisme sportif ou pas. D'ailleurs, en France, c'est 7000 entorses par jour.
Ouais.
Donc, comme quoi, il y a de quoi faire. Donc, l'huile essentielle Star, qui est un petit peu chère, c'est l'Hélichryse italienne, qui est 50 fois plus efficace sur tout ce qui est ecchymose.
L'huile essentielle de
d'Hélichryse
italienne, d'accord.
Où on appelle ça aussi l'immortelle. Meilleure qualité, elle vient de Corse ou du sud de la France, ce qu'on en trouve à peu près partout. Et donc, cette huile essentielle est extrêmement vulnéraire. Donc, elle va résorber les problèmes sanguins comme l'arnica, mais plus efficace. Et elle va réduire l'œdème et la douleur. Après, on peut l'associer avec du froid, donc de l'huile essentielle de menthe poivrée qui contient du menthol ou de menthe des champs.
Bien sûr, tout ce qu'on dit là n'épargne pas la consultation médicale. Hein, dans ce genre de situation, il faut aller voir bien sûr le docteur. Hein.
Et puis, quand il y a un protocole avec du froid sur l'entorse, on ne rajoute pas encore du menthol. Hein. L'hélichryse peut être prise aussi lorsqu'ils ont des plâtres hein, où ça gonfle, c'est violacé. Ça va aider. L'idéal, c'est quand c'est le docteur qui le prescrit.
Quand j'ai connu Mélanie, elle était un peu motivée, elle faisait un peu de sport et puis elle a perdu sa motivation.
Vous parlez de moi, parlez de vous. Hein.
Non, mais est-ce qu'on pourrait. Moi, j'ai pas envie de faire du sport, c'est tout réglé. Mais est-ce qu'on pourrait essayer justement de retrouver la motivation avec des petites choses par-ci par-là?
Alors, déjà, c'est important de distinguer le sport et l'activité physique. Et c'est bien le problème actuellement. L'activité physique, elle est nécessaire à une bonne santé et beaucoup de gens l'ont arrêté. Le sport peut être très délétère pour la santé si on court mal, si on est mal chaussures, si on en fait trop. Hein, donc, on va stimuler, par exemple, on parlait des surrénales, on peut utiliser des bourgeons comme le Ribes nigrum, c'est des bourgeons de cassis. Ça, c'est très documenté pour stimuler, nous donner la motivation ou trouver son odeur de motivation, le laurier noble, la confiance en soi.
L'odeur de la victoire, l'odeur de la motivation, Jimmy, en sortant de là, on saura tout. Hein. Donc, le bourgeon de, répétez-nous le nom.
Ribes nigrum en latin,
pour
c'est
avoir
le
envie
cassis.
De se remettre au sport, là, pour le coup.
Le cassis
d'accord.
En feuille. Ouais.
Très bien, on retient.
En cas de bleu, d'hématome, est-ce qu'on peut essayer d'avoir des petits remèdes naturels? D'ailleurs, souvent, les patients demandent après un petit traumatisme, qu'est-ce qu'on peut appliquer dessus? Ils ont souvent acheté, je sais pas, de l'arnica, je sais pas si ça marche d'ailleurs.
Oui, si, ça marche. Et puis, on trouve même des crèmes toutes prêtes avec arnica et cette fameuse immortelle, cette fameuse illicrise. C'est assez bluffant au niveau des bleus. Ça peut être aussi chez les sportifs qui, comme vous, Jimmy, qui courez beaucoup, les orteils qui cognent contre les chaussures, justement, à force. Et là, on a les orteils tout bleus. Ça arrive souvent. Et c'est très efficace. On peut le faire en prévention aussi.
Allez, on va terminer par un bobo, entre guillemets, parce que je ne sais pas, un bobo, transpirer, c'est normal. Mais on va parler de transpiration. Parfois, elle peut être gênante quand il y en a trop ou que ça sent mauvais, on va dire. Comment on peut éviter, en tout cas avec des remèdes naturels, on va dire, les problèmes de transpiration excessive? Ça servira aux sportifs et pas que d'ailleurs, dites-nous.
Alors, ce n'est pas vegan, je vais déjà conseiller des vêtements ou des semelles à base de mérinos, de laine mérinos, ça absorbe les odeurs.
Donc ça c'est un petit conseil perso.
En plus,
d'accord, okay,
voilà.
Très bien.
Mais c'est hyper efficace sur des gens qui ont des problèmes au niveau des pieds même. Il existe maintenant des semelles à base de laine mérinos. C'est très léger en plus. Et
on transpire
ça
moins.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se laver ou pas laver ses vêtements.
Et du coup, peut-être de la phyto ou autre.
Alors sinon, on va utiliser par exemple le plus simple, une pierre d'alun, c'est connu, alun de potassium. Et on peut rajouter une goutte de géranium ou de palma rosatui et on le passe au niveau des aisselles par exemple. C'est très efficace. Et puis on peut faire des synergies.
Ça n'empêche pas complètement la transpiration non plus,
non,
parce qu'il faut transpirer.
En fait, ce n'est pas des bloqueurs de transpiration, c'est des choses qui évitent aux bactéries qu'on a sur nous de fermenter, de faire une mauvaise odeur. Donc là, on va avoir plutôt une odeur.
Un peu de transpiration, un peu d'odeur de fleurs, mais en tout cas, moins de problèmes. Merci
Exactement.
Beaucoup, Françoise Cook-Marinier, d'avoir été avec nous cet après-midi. Et donc, je rappelle, pour ceux qui voudraient en savoir davantage, votre livre sportif, Le guide complet des soins naturels aux éditions Terre Vivante. Merci encore.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé, Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Et à présent, on va passer à notre séquence Les bobos du quotidien. Vous êtes peut-être fatigué en ce moment et tenté de vous tourner vers certaines boissons soi-disant énergisantes. Mais en réalité, savez-vous ce qu'elles contiennent précisément? Connaissez-vous les risques liés à leur consommation? Notre reporter Barbara Silvera Sonigo a été tester vos connaissances sur ces boissons et leurs éventuels dangers auprès de vous. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
Une boisson énergisante, pour moi, c'est une boisson
qui me donne la pêche le matin,
de l'énergie
que je prendrai après le sport ou à un moment de la journée où j'ai un coup de barre.
C'est quelque chose qui va être doté pour moi de caféine,
de la vitamine C,
taurine,
un mélange de vitamines
ou de théine.
Non, je ne consomme pas de boisson énergisante.
Non, ça peut être dangereux.
Parce que j'ai peur. J'ai lu des articles où on dit que ça peut affecter le cœur.
Ça peut augmenter le rythme cardiaque,
palpitations du cœur,
des tachycardies, des troubles du sommeil. C'est toujours dangereux de mélanger l'alcool à quelque chose.
Très dangereux.
Non, je ne mélangerai pas, non, parce que peut-être qu'il y a un mélange de vitamines qui serait incompatible avec l'alcool.
Déjà, seul, ce n'est pas très très bon pour la santé, alors si on mélange avec l'alcool...
Ça doit doubler ou tripler ou quadrupler les effets de la boisson énergisante.
Alors Jimmy, on va s'intéresser aux boissons énergisantes, d'ailleurs à ne pas confondre avec celles prisées par certains sportifs. On est dans le sujet sport aujourd'hui. Les boissons énergétiques, ce n'est pas du tout la même chose. C'est quoi la différence entre les deux?
Alors les boissons énergétiques, ce sont celles qui vont permettre de lutter contre la fatigue et la déshydratation durant et après un effort. Elles vont en quelque sorte recharger les stocks que vous allez dépenser. Elles vont contenir de l'eau, les boissons énergétiques, qui vont servir à la réhydratation, du sucre qui peut être rapide ou lent en fonction du type d'effort, des sels minéraux que vous allez éliminer et perdre justement et il va devoir les réabsorber, et puis certaines vitamines, notamment du groupe B, qui permettent la production d'énergie. Et vous y trouvez aussi des antioxydants comme de la vitamine C, ça c'est les boissons énergétiques, à ne pas confondre avec les boissons énergisantes, qui ne sont rien d'autre que des boissons sucrées et gazeuses.
Et voilà, justement, c'est donc la publicité mensongère, en quelque sorte, de les appeler boissons énergisantes. On a l'impression qu'on va avoir un coup de boost immédiat.
Exactement, on joue sur la confusion entre les deux termes. Il n'y a pas de vraie réglementation, donc on peut appeler ces boissons un peu comme on veut, sauf qu'en réalité, eh bien, vous allez voir qu'elles vont apporter aucune énergie, si ce n'est du sucre.
D'accord, alors donc pour le coup de mou, on ne va pas se tourner vers ce type de boisson. Et du coup, vous l'avez dit, c'est des bombes de sucre, donc c'est plutôt une bombe de kilos en trop, quoi, surtout.
Exactement,
c'est ça,
elles vont permettre une chose extraordinaire, c'est la croissance de l'obésité. Un Français sur deux étant surpoids ou obèse, et bien grâce à ça, on va pouvoir tranquillement évoluer vers de nombreuses autres personnes en surpoids. Parce que finalement, vous avez dans ces boissons 10 grammes de sucre pour 100 ml.
C'est énorme.
C'est énorme. Alors parfois, on n'a pas l'impression que c'est beaucoup. Mais si je vous dis que dans une canette, vous avez l'équivalent de 10 morceaux de sucre, c'est-à-dire l'intégralité de vos apports journaliers en buvant une seule canette, je pense que vous comprenez l'impact que ça peut avoir sur votre santé.
Et qui dit sucre dit kilos en trop, certes, mais aussi caries, attention.
Caries, d'autant plus que ces boissons, on a l'impression, et certains dentistes le rapportent, qu'elles sont plus érosives et plus corrosives pour l'émail. Et donc, qu'à sucre équivalent, entre celui que vous allez prendre dans un jus de fruits ou dans un jus d'orange
et ce genre
celui
de boisson,
exactement, eh bien, vous allez propager plus de caries. Mais encore une fois, c'est bien, il n'y aura jamais de dentiste au chômage grâce à ça.
Très bien. Et ces boissons, Jimmy, vous l'avez dit, elles contiennent souvent de la caféine. Donc logiquement, ça devrait peut-être un peu nous dynamiser quand même, non?
Comme oui, vous allez avoir l'équivalent de 3 à 4 cafés dans une seule canette. Alors imaginez si jamais vous en buvez 2 ou 3 et qu'à côté de ça, vous avez d'autres apports en théine, en caféine, en buvant tout simplement en thé, eh bien vous allez tout simplement être excité. Donc vous allez, sur le court terme, augmenter votre vigilance.
Mais pas vraiment l'énergie.
Mais pas l'énergie. Mmh. Et donc vous allez être énervé. Et au contraire, ça va entraîner des effets secondaires, puisque vous allez probablement avoir de la tachycardie, parce que le cœur va être un peu plus excité. Et si en plus de ça, vous faites du sport, eh bien vous risquez une déshydratation, car c'est diurétique. Vous allez faire plus pipi et donc vous déshydrater.
Un mot très rapide, Jimmy, parce qu'attention, les jeunes consomment souvent ce type de boisson avec de l'alcool. Là, danger, danger. Hein.
Grand danger, ça potentialise les effets de l'alcool. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les effets de l'alcool vont être beaucoup plus importants et donc plus toxiques pour votre santé. Donc vraiment, je vous le déconseille, ça ne sert strictement à rien et ce n'est pas bon pour la santé.
Bon, bah très bien. Merci beaucoup, Jimmy, c'était très clair. Merci pour cette mise en garde et ces conseils avisés, comme toujours.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. On va passer à la toute dernière séquence de l'émission, mais pas des moindres, c'est la meilleure, n'est-ce pas Jimmy? Celle qui vous plaît le plus?
Celle qui plaît toute la régie d'Europe 1.
Voilà, exactement, ils sont nombreux aujourd'hui en plus. Alors aujourd'hui, Catherine, on va prendre la question de Chloé. Elle a 21 ans. Alors lorsque j'ai un rapport, dit-elle, avec mon copain, on a beaucoup de mal à faire une pénétration. La première fois qu'on a essayé, j'étais vierge, impossible de rentrer. On a mis 6 mois pour réussir à avoir un rapport avec pénétration. Et même avec ça, les fois d'après, c'était encore difficile de pénétrer. Ça fait comme un mur en fait, alors que j'ai très envie. Est-ce qu'il y a une explication? Catherine, pour commencer, est-ce qu'on peut expliquer cette difficulté, ce mur dont elle parle pour avoir un rapport avec pénétration?
Alors d'abord, ça s'appelle du vaginisme primaire, c'est-à-dire que sa sexualité se démarre sur une difficulté de pénétration, une grosse difficulté de pénétration qui entraîne évidemment une inquiétude, quand bien même elle est débordée de désir, dit-elle. Il y a suffisamment d'inquiétude pour souvent se positionner d'ailleurs mal. Alors du coup, on a deux jeunes gens qui sont dans l'inquiétude de faire l'un de faire du mal, l'autre d'avoir mal ou que ça rentre pas. Résultat, ça fait deux maladresses qui se rencontrent et souvent deux corps qui ne se mettent pas dans le bon sens de l'emboîtement. Souvent, une jeune femme qui se retrouve plutôt les fesses contre le lit, un peu cambrées, ce qui fait que son vagin va vers le matelas quand le pénis, lui, en érection...
Donc, physiologiquement, ce n'est pas l'idéal,
voilà,
en fait.
Voyez, on est comme ça dans un truc qui ne marche pas très bien, si bien que souvent, le pénis ou heurte le pubis, qui est un os, en effet, donc ça ne peut pas aller bien loin, ou alors, par inquiétude, un périnée qui est extrêmement tendu, et comme il est tendu, donc ça, c'est la partie plutôt dorsale, donc vers le lit, qui va du coup être suffisamment tendu pour sentir cette tension qui empêche la fluidité de la pénétration. À cela se rajoute, puisqu'il y a de l'inquiétude, une lubrification qui n'est pas hyper abondante, donc qui ne vient pas jusque déborder au niveau de la vulve, si bien que évidemment un pénis sans lubrification et une vulve pas encore lubrifiée, même si le vagin, puisqu'il y a un désir, l'est, eh bien ça fait une difficulté de glisser naturellement.
Techniquement, ça a l'air compliqué là, effectivement.
Oui, mais sauf erreur de ma part, il n'y a pas de mur dans un vagin, donc est-ce
que... Il n'y a absolument aucun mur. Il n'y a même pas de muscle, en effet.
Il n'y a pas de muscle, mais du coup, il ne faut pas forcer pour autant, il ne faut pas se dire que ça va finir par rentrer, parce que là, peut-être qu'on va aggraver le problème.
C'est toute la difficulté du vaginisme, parce que le vaginisme n'est pas qu'une question de problème technique. Il y a un peu d'inquiétude, qui fait un peu de maladresse, qui fait des difficultés, mais sinon, assez naturellement, les corps sont faits pour s'emboîter.
Parce qu'il n'y a pas d'obstacle, hein, quand il y a du vaginisme, non. C'est fait pour rentrer quand même dedans, en fait.
Bien sûr, parce qu'encore une fois, il y a plusieurs choses. Il y a aussi l'idée que l'on se fait d'un hymen à percer quand une femme est vierge, et que du coup...
Ah oui, ce n'est pas dur, il faut bien le dire aux jeunes gens, c'est-à-dire, il n'y a rien de dur en réalité qui ressemblerait, comme le dit Jimmy, à un mur physiologique.
Il n'y a ni os, ni muscle qui serait, si ce n'est encore une fois ce périnée qui est à l'entrée, qui est au niveau donc entre l'anus et la vulve, enfin et la fourche de la vulve, qui a bien sûr des ramifications, mais le vagin lui-même, ce n'est pas un muscle, donc il n'y a pas de contraction, de crampe.
Donc là, c'est un micmac physiologique et psychologique, quoi, c'est ça.
C'est rien à voir avec la taille du zizi, quoi. C'est pas parce qu'il a un gros zizi que ça rentre pas.
Timmy, il y a bien les choses physiologiques.
Oui, parce
mais bien sûr, puisqu'un bébé avec une tête de 10 cm va pouvoir passer.
Ah oui.
Donc on pense bien que de toute façon les pénis rentrent, à condition bien sûr qu'il y ait un terrain favorable, à savoir cette lubrification qui fait toute la moiteur et le côté un peu glaireux qui permet justement à ce pénis de glisser.
Bon, puisqu'on est dans les choses très pratiques aujourd'hui, Catherine, qu'est-ce qu'on peut conseiller à cette jeune fille de 21 ans qui se retrouve quand même face à un mur, elle le dit, donc qu'est-ce qu'on peut lui conseiller pour améliorer les choses?
Alors, dans un premier temps, je crois que essayer par la force, forcer pour
ça servira
forcer,
à rien, ça
dans la mesure où il y a des raisons psychologiques à cette inquiétude, ce n'est que se faire violence et à nouveau alimenter l'idée que la pénétration est une violence. En plus, pour l'homme, ce n'est pas du tout non plus très satisfaisant, puisque un jeune homme, ce qui plus est de cette génération-là, est en particulier dans l'inquiétude de faire du mal, parce que quand même, c'est quand même un thème général aujourd'hui que l'on a tout autour de nous, et heureusement d'ailleurs.
Bon, mais donc, assister, ça serait traumatiser les deux, finalement.
Mais
donc, c'est quoi la solution?
Commencer par pénétration avec autre chose qu'un zizi, avec un doigt, par exemple?
Non, mais
c'est
vraiment
pragmatique.
Mais vous avez raison, et à commencer par le sien, pour qu'elle puisse le faire, parce que souvent, les jeunes femmes vaginiques n'arrivent pas à
vous
mettre...
Vous êtes presque sexologue,
voilà,
en fait.
Elles n'arrivent pas à mettre des tampons, souvent. C'est-à-dire, celles qui consultent pour ce genre de sujet, souvent, sont les mêmes jeunes femmes qui ne mettent que des serviettes
et
jamais de tampons.
Donc, étape par étape, comme ça, ça peut fonctionner.
Voilà, donc même le tampon est perçu comme étant potentiellement un intrus et déjà douloureux. D'ailleurs, elles ont peur de le perdre à l'intérieur d'elles-mêmes, donc elles ne le mettent pas très enfoncé. Résultat, dès qu'il se gorge de sang, il est lourd et douloureux. Ce qui alimente à nouveau le fait que la pénétration est douloureuse, alors que ce n'est pas de la même chose dont nous parlons.
Bon, donc étape par étape, et puis soigner le psychologique, peut-être faire des choses pour se détendre.
Essayer de comprendre ce qui est à l'origine de cette peur, qui fait cette protection. Et encore une fois, pour terminer là-dessus, c'est que le vaginisme, c'est avant tout non pas une incompétence, mais l'expression d'un pouvoir protecteur.
Très bien. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils. Et donc, à demain. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Place maintenant à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils nous racontent l'histoire tous les après-midi sans se la raconter. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie.
Bonjour Mélanie.
Et oui, aujourd'hui, vous connaissez le club des 27?
Oui, non.
C'est un club de
c'est
gens...
C'est pas un club échangiste, Mélanie. C'est un... Là, vous avez tenté de la piéger.
J'ai un petit doute, là.
Non. C'est pas du tout ce que vous croyez.
Est-ce que je l'ai fréquenté? Non. C'est... Pardon de vous le dire, Mélanie, mais c'est un peu trop tard. Oui, c'est le club des gens qui sont morts à 27 ans.
Oh, non, deux ans près, mais vous auriez pu en faire partie.
Qui vous dit que je n'ai pas 27 ans, franchement?
C'est vrai qu'il est goujat.
Hein. Un peu, là, je trouve.
J'ai votre CV entre les mains.
Alors, le club des 27, normalement, ça concerne des rockstars. On pense à Jim Morrison. Effectivement, on pense à des gens comme ça qui sont morts.
Janis Joplin.
Amy Winehouse, dont je vais parler. Mais pour Stéphane, le club des 27, c'est aussi...
Elephant Man, Joseph Merrick. Et puis, il était beaucoup plus rock qu'on ne le croit, le roi Charles VIII de France.
Si vous voulez découvrir le côté rock de Charles VIII, restez
Charles VIII, rock'n'roll, super.
Il s'est pris un rock dans la tête, il est mort.
c'est comme ça qu'il est mort. Vous allez voir, c'est vrai en plus. C'est vrai.
Très bien. Mais écoutez, on va rester pour vous écouter, bien évidemment, avec Jimmy et Catherine. On se régale tous les après-midi. On reste avec vous sur Europe 1 et vous aussi, faites la même chose.